Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Attention, je me lance, c'est la première. Parce qu'en plus, normalement, tu sais, généralement, je peux faire plusieurs essais, je peux faire du montage, parce que je bloque, je heurte sur certains mots. Et là, j'ai pas le choix. Faut que ça soit nickel d'entrée. Donc attention. Échauffement, Jacques Mayol, c'est parti. Spotzle, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 157, ici Richard Delhomme. Aujourd'hui, il y a du changement. Aujourd'hui, j'essaye de me renouveler. Adieu donc la sempiternelle intro enregistrée après l'épisode. Aujourd'hui... Attends, j'étais en train d'avaler un truc. Ça tombe mal, j'allais dire un truc intéressant. Aujourd'hui, j'adopte un ton nouveau. Je vais être sérieux et prendre ma voix la plus douce. Jusque-là, c'est loupé. Hein. Donc, fini les grosses blagues, les vulgarités et l'ambiance de club de striptease, et là, vous vous dites, combien de temps va-t-il tenir ce rythme? C'est impossible, c'est trop dur, il n'y arrivera jamais. C'est ce que nous allons voir, et je vais même reprendre les questions de Eva Bester dans L'Embellie sur France Inter tous les dimanches matins, que je recommande vivement. Aujourd'hui, je reçois Johan Dercourt, récent vainqueur de la Hope Mill, de la Race Across Belgium 500. Et autant vous dire que Johan, c'est pas un cake à la petite semaine. Bonjour Johan.
Bonjour.
Bon, ça va. Franchement, pour une première, je me suis un petit peu troué à un moment, mais ça va quand même, quoi.
Ça va. Ça se verra pas trop.
Bon. Non, ça se voit. Attends, je reprends mes petites questions. Johan, est-ce que tu es content d'être venu au monde?
Ouais, je suis content, écoute. Ouais, je suis content. C'est une vie qui me plaît, donc c'est l'essentiel.
Alors, je me contente de ta réponse. Hein. Je pourrais creuser un petit peu, mais je vais considérer que c'est très très bien. Et voilà. Es-tu en bon terme avec toi-même?
Ouais, je pense, ouais. Ouais, dès que j'ai envie de faire quelque chose,
Tu penses, ça veut dire que tu n'es pas sûr?
Non, si, j'en suis sûr. Si. Tout ce que j'ai envie de le faire, je le fais.
Il a flairé l'embuscade, il s'est dit, il vaut mieux mentir.
Non, c'est vrai, non, franchement, je suis en accord. Dès que j'ai envie de quelque chose, je te crois pas, Johan.
Là, par contre, je te crois pas trop.
Ah, bah tant pis, tu me connais mal.
C'est ce qu'on va voir. On en reparle à partir de fin, tu verras si tu fais ce que tu veux. Qu'est-ce qui te fait te lever le matin?
Qu'est-ce qui me fait lever le matin? Waouh, les questions. Je suis un habitué, mais même si je suis un habitué, c'est pas facile à répondre à ces questions. Qu'est-ce qui me fait lever le matin? Pour découvrir toutes les nouvelles journées, enfin tout ce qui peut m'arriver de nouveau, quoi. Le boulot, et après le reste, quoi. Le sport, le plaisir, tout ce qui fait partie de la vie.
Alors, est-ce que tu es conscient que la fête est bientôt finie? Que tu vas être papa et que bientôt sur tes mains tu auras une matière chaude et visqueuse, et crois-moi, ça sera pas du liquide préventif.
Ouais, j'en suis conscient, ça arrive vite, c'est dans 2 mois du coup. Je commence à m'y préparer, mais finalement je le vis bien. Enfin, maintenant j'ai hâte, quoi. La grossesse se passe bien, enfin, pour ma copine, et c'est un bon moment, donc on a hâte, quoi.
Est-ce que tu sais que il y a un point commun flagrant entre se préparer à l'arrivée d'un bébé et les épreuves de bikepacking?
Par rapport
c'est
au sommeil.
Tu peux te préparer autant que tu veux. De toute façon, tu n'as aucune idée de ce qui va t'arriver. Tu peux te préparer, mais globalement, tout ce que tu fais, ça ne te servira à rien.
J'imagine. Bon, on verra bien. C'est de la surprise.
Bon, Johan Dercourt, puisque je vois que tu es super bavard et enclin à la discussion et à la rigolade... On va commencer par la présentation. Johan Dercourt, qui es-tu?
Alors, je m'appelle Johan
Dercourt. C'est uniquement pour t'emmerder et t'obliger... Ah, j'avais dit plus de vulgarité, mince. Ouais. Uniquement pour te faire chier et t'obliger à parler. Voilà.
Non, mais t'as raison, je suis pas un bavard, et surtout filmer, podcast et tout, j'adore écouter, mais c'est vrai que c'est pas facile de s'exprimer. Du coup, je m'appelle Derkor Johan, j'ai 33 ans, j'habite en Isère, à côté de Voiron à Rives, plus précisément. Je suis menuisier dans une boîte qui conçoit et fabrique des stands pour des salons d'expo, du coup, qui m'emmène à partir pas mal en déplacement, un peu en France, Europe, un peu dans le monde. Donc voilà, avec ce boulot, je jongle avec mon sport. Donc là, l'ultra distance, j'en fais depuis 2 ans, on va dire. Avant, j'ai fait on va reprendre à zéro. J'ai commencé par du vélo quand j'étais pré-licencié jusqu'à junior. Après, avec l'apprentissage, j'avais plus assez de temps pour rouler. Enfin, surtout que j'aime bien la compétition et du coup, le vélo, il faut des heures de selle pour être bon, on va dire. Du coup, j'ai arrêté. Pendant 1 an, j'ai trop rien fait. Je courais un peu et en fait, finalement, plus je courais, plus j'ai pris goût. Et du coup, je me suis mis à faire du trail. Donc ça, les résultats sont vite arrivés. Ça a bien marché, on va dire, sur le plan national. Sur le plan national. Et du coup, j'en ai fait pendant 10 ans. Et j'en ai fait pendant 10 ans. Et après, pour mes 30 ans, en fait, j'ai toujours voulu... J'ai toujours voulu faire du triathlon en fait, mais il faut.
Non, mais t'inquiète, Johan.
Ouais, pardon.
Je te coupe un instant, vas-y, mais t'inquiète. Le côté caméra et tout, ça, t'inquiète pas. À un moment donné, tu vas l'oublier. Je me moque sur le moment, ouais. Mais je sais qu'à un moment donné, tu vas oublier que t'es filmé, tu vas oublier que d'habitude tu écoutes et qu'aujourd'hui c'est toi l'invité. T'inquiète pas, ça va bien se passer.
Ouais, non, c'est pas facile.
Donc.
Du coup, je me.
Ah, mais c'est. Hey, je t'ai jamais dit que c'était facile.
Ah ouais, non, mais c'est clair.
T'es 30 ans, tu t'es mis. Oh, tu es revenu au vélo, et voilà.
Voilà, j'ai 30 ans, je voulais faire du triathlon depuis un moment, et je me suis dit, pour mes 30 ans, j'ai envie de faire Embrun. Enfin, l'Embrunman, et du coup, j'ai commencé à refaire du vélo. J'ai un peu nagé, mais c'est pas mon point fort. Du coup, courir, genre, je courais toujours, du coup, ça. Une qualité, du coup plus je faisais du vélo, plus je reprenais goût à faire du vélo. Et du coup j'ai fait Embrun, ça s'est super bien passé. Pendant la préparation j'avais fait quelques petits triathlons. Ensuite l'année suivante on a pris une année sabbatique avec ma copine, on est parti faire un tour du monde normalement, enfin le Covid est arrivé entre temps. Du coup on a été bloqué 4 mois et demi en Nouvelle-Zélande. Et du coup, bon, ce qui est pas trop mal hein, finalement, vu que le confinement là-bas c'était assez cool. Ensuite, du coup, on devait aller en Amérique du Sud, mais on a décidé de pas y aller vu qu'on voulait pas se refaire confiner. Et du coup, on est rentré, enfin, en Nouvelle-Zélande, on a préparé faire un voyage à vélo en Europe sur les 3 mois et demi qui nous restaient. Du coup, on est rentré 10 jours, on a récupéré nos vélos qu'on venait d'acheter, c'était des gravels. Et on est parti 3 mois et demi. En Europe, dans les Alpes, Italie du Nord, Dolomites, Slovénie, Croatie, Corse, Sardaigne. Et voilà, l'amour du vélo est vraiment revenu à ce moment-là. Quand j'étais en Corse, du coup, j'avais vu Axel Carion et des amis qui avaient fait la GT20. Et du coup, ça m'a donné vraiment envie de la faire. Et du coup, après avoir fait le tour de Corse, ma copine a loué un bungalow. Et du coup, moi, je suis remonté... j'ai perdu le nom du départ à Ajaccio, non Bastia, et du coup j'ai fait la GT20 en solo et finalement c'était ma première expérience en ultra distance, quoi, en solo, vu que ça fait 560 km, un truc comme ça. Du coup j'ai fait la nuit complète, en plus la pluie et tout, donc c'était un peu l'épopée, mais c'était génial, quoi. Et du coup, enfin, je fais un niveau chrono, j'ai fait mieux que eux, mais finalement, il n'a pas été validé, enfin, ce qu'on me disait, parce que j'avais pas de tracker, pas de machin, rien qui pouvait prouver. Il y en a qui me disaient, mais t'aurais pu faire des fractionnés, couper le truc. Bref, j'avais pas envie de me prendre la tête, en fait, je l'ai fait pour mon plaisir. Et voilà, et après, le voyage, j'ai pratiquement terminé, enfin, une semaine de terminer à 10 jours. Pour remonter la France, il y a eu le deuxième confinement et du coup notre voyage s'est arrêté. Voilà, après on a repris notre train-train, notre boulot. Et après, du coup, j'ai vraiment fait ce que je voulais, j'ai arrêté le trail. Et en fait, je me suis mis à l'ultra-distance et du coup, depuis 2021, je fais des courses d'ultra-distance. J'y ai pris goût. Et voilà.
Et ben voilà. Et ben je vais vous souhaiter une excellente journée, puis on va laisser Johan retourner à la menuiserie. Est-ce que, malgré tout, tu te dis, le trail, le triathlon, c'était sympa, mais j'aurais peut-être dû reprendre le vélo avant?
Bah, des fois, je regrette quand je vois des jeunes qui sont, enfin, comme Clément Clisson, ou de cet âge-là, comme Marin, avec qui j'ai fait la Hope l'année dernière, qui sont beaucoup plus jeunes, qui ont. Je me dis, ouais, du coup, je regrette un peu, mais finalement, je regrette pas. En trail, je me suis vraiment amusé. J'ai fait des courses de malade un peu de partout. J'en ai profité des voyages pour faire des courses à l'étranger. Donc, je regrette pas mes années. Enfin, le trail, j'ai fait des sacrés trucs et je me suis régalé. Mais du coup, même si j'ai 33 ans, je suis encore jeune, je regrette de pas avoir commencé avant, finalement. Mais bon, je regrette pas ma vie. Il n'est jamais trop tard pour commencer.
Bon, et puis le trail, ça t'a quand même... Alors, quand tu dis trail, on parle de quelles épreuves et de quelles distances? Parce que trail, ça peut être l'éco-trail de Paris sur du bitume, comme ça peut être un truc super féroce au fin fond du Pérou.
Ben, je faisais pas de l'ultra-distance. Hein. Le maximum, j'ai fait 85 km, quoi. J'ai fait le Mute, enfin, j'en ai fait plusieurs, le Grand-Duc, enfin, des trucs un peu bien connus, quand même. Ben, l'éco-trail de Paris, la Saint-Élion, j'ai déjà fait, enfin, plein de fois. Et en fait, j'aimais tout type de format. J'étais bon sur du 20-60, mais ouais. Je faisais pas mal de formats. Après, l'ultra, par contre, ne m'attirait pas plus que ça, parce que j'aimais bien courir vite, et que du coup, ça m'attirait pas de marcher, de passer des nuits dehors, alors que le vélo, ça a totalement rien à voir, je trouve. Je suis totalement attiré par l'inverse en vélo, du coup.
Bah pourtant, à vélo, justement, ouais, il n'y a pas cette notion sur l'ultra, bon, on peut aller vite de temps en temps, mais sur de l'ultra, on peut pas dire que tu battes des records de vitesse.
Non, c'est sûr, mais du coup,
enfin, c'était pas toi, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va pas vite un vélo sur de l'ultra. Alors des fois même on pousse le vélo, ce qui est encore plus stupide.
Ouais, non, mais c'est vrai, mais je sais pas. Du coup, en vélo, j'ai fait une transition et c'est ce qui me plaît plus, c'est vraiment le long, de passer, bah, comme sur la Hope, ouais, de passer 3 jours dehors, à rouler. C'est ça qui me plaît, quoi. Par rapport au trail, ouais, j'étais pas attiré, c'était. Peut-être le fait de marcher par rapport à courir a une grosse différence et c'est autre chose, quoi, encore.
Donc, pour résumer, tu es en train de me dire que les courses du dimanche après-midi, prendre une licence en 2-3 FFC et avec le club et avoir un logo Carrefour sur le cul, ça te manque pas?
Bah, je suis inscrit dans un club, en fait, mais du coup, en fait, j'ai même pas le temps d'aller faire des courses. J'ai fait un peu.
Et t'as un logo Carrefour sur le cul, j'espère?
Non, même pas Carrefour. Non, c'est pas Carrefour. Et non.
Lidl.
Non, même pas. Je sais même plus. Non, mais je crois que sur le cuissard, il y a rien sur les fesses, donc c'est pas mal. Ils ont des nouveaux cuissards, ils sont cool. Il y a moins de pubs. Bon, ouais, c'est pas bien, pareil ça. Du t-shirt, mais le maillot, déjà, il y a pas de pub, c'est déjà bien. Après, j'aime bien les vire-vire, mais en fait, j'ai pas l'occasion. Enfin, c'est un peu compliqué de tout caser entre les entraînements longs, les sorties avec les potes, ouais, les courses. C'est un peu compliqué, quoi. Mais bon, j'en ferai une ou deux.
Tout à l'heure, tu m'as dit je suis menuisier, je travaille en France, en Europe, c'est sympa et tout. T'es allé à Gérone récemment?
Bah ouais, c'est pour ça. Ouais. Du coup, j'ai profité en fait d'un déplacement à Barcelone de 15 jours. Et en fait, par hasard, j'ai regardé. En fait, normalement, je devais partir à Gérone le lundi pour le boulot. Et en fait, j'ai regardé par hasard en Espagne s'il n'y avait pas une course le week-end avant. Et il y a eu la Traca, une course gravel, longue distance. Tout s'est bien goupillé juste au nord de Barcelone. J'ai fait, ben là, je peux pas la louper, c'est impossible. Et du coup, j'ai été faire la Traca.
Celle-là, ouais. Alors je vais la résumer parce que vu que t'es trop modeste et trop bavard pour nous raconter, pour faire un résumé rapide, sachez que devant donc c'était Mathia Demarquis, Lachlan Morton et un tout petit peu derrière Ulrich Bartholmos, Johan, si mes souvenirs sont bons, avant ta déchirure de pneu vers le kilomètre 100, t'étais avec Ulrich.
C'est ça, ouais. Moi, j'avais un tout petit peu lâché juste avant.
Ça vous donne juste une idée du niveau de bâtard de Johan, c'est juste ça, voilà. Et tu me disais même, c'est dingue, il est pas beau sur un vélo Ulrich. Mais non, c'est vrai, il est pas beau sur un vélo.
Ah, il n'a pas la classe
sur une pelle chaude.
Il n'a pas la classe de la Lachlan Morton. Mais bon, après,
C'est clair.
Il est fort, il est fort.
C'est pas le même gabarit non plus.
C'est pas pareil, non, ça n'a rien à voir.
Dès la clan, t'en mets deux dans Ulrich, donc forcément.
Ouais, mais c'est clair. Ouais, c'était une course de fou quand même.
Et qu'est-ce qui t'est arrivé justement aux 100 km? Raconte-nous un petit peu déjà le départ, le tempo, l'ambiance générale entre les concurrents, le parcours et surtout ce qui t'est arrivé aux 100 km et comment tu t'en es sorti. Parce que ça, même si c'est raconté brièvement dans le numéro 2 de Planète Gravel, il y a un petit paragraphe sur l'épopée de Johan dans le sujet compétition. Malgré tout, ça mérite d'être raconté encore une fois.
Bah du coup, déjà pour remettre le truc en ordre, c'est sympa, merci. Pour remettre le truc en ordre, déjà, du coup, je me suis inscrit à cette course et du coup, j'ai suivi la course sur Insta et je commençais à voir qu'il y avait plein de publications, plein de trucs. Enfin, je me suis dit, waouh, c'est quand même une sacrée course en fait. Et je voyais plein de mecs inscrits quoi. Et je regardais vite fait, champion d'Europe, champion du monde. Je me suis dit, waouh, mais c'est quoi ce plateau? Après, j'ai vu qu'il y a la Clan Morton, Mathias de Marquis. Le team Amani, je fais waouh, mais là c'est un truc de fou. J'ai l'impression de faire les championnats du monde en fait. Du coup, bref, du coup, sur la ligne de départ, je regarde un peu les vélos, les trucs. Je fais waouh, sacré vélo. Moi j'avais j'ai un bon gravel, je vais pas cracher dessus, mais en comparaison, j'avais un vélo bas de gamme par rapport à eux. Après, je regardais la section des pneus et je fais waouh, moi j'étais en 38 à l'avant et 40 à l'arrière. Eux c'était minimum en 45. Je fais waouh. Bon bref, après du coup on est parti, 25 premiers kilomètres c'est parti à balle quoi, enfin c'était impressionnant. Du coup là j'ai laissé un peu le groupe partir, enfin c'était un peu à la file indienne quoi, il y en avait quoi, 10-12 devant. Et je fais mais c'est pas possible de tenir 360 bornes à cette vitesse quoi. Et en fait j'ai eu de la chance, enfin ils étaient vraiment pas loin et en fait ils se sont trompés de parcours. Ils ont tout de suite fait demi-tour et ça m'a permis de rentrer sur eux. Et en fait à partir de ce moment là, ça allait beaucoup moins vite. Mais vu que derrière ça avait fait un sacré trou, mais on était une quinzaine je pense, et en fait ça roulait par à-coups, pas tout le monde, il y en a plein qui voulaient gruger, qui roulaient pas, du coup moi je roulais un peu devant avec la clan, avec machin, et après j'ai kiffé aussi, enfin, je me dis rouler avec eux c'est pas tout le temps, et du coup ça roulait vite mais pas plus que ça, du coup j'en ai profité, en plus pour ceux qui me connaissent je suis pas avare de prendre le vent et tout, ça me dérange vraiment pas, du coup moi j'allais devant, il y avait Ulrich, il y avait toujours les mêmes qui étaient devant, et du coup ça faisait des bons tempos, des fois ça ralentissait, du coup c'est un peu rentré par l'arrière, on était un gros groupe de 25 quoi, et au kilomètre 100, ou 90 ou à 100, il y avait un ravitaillement, et là c'était un peu Bagdad, c'est que tout, il y avait deux points d'eau et tout le monde voulait remplir à 25, c'était un peu la folie, et du coup c'est un peu là que le groupe s'est dissipé quoi, enfin, et du coup je pense que la clan est... Mathias de Marquis sont partis plus rapidement. Il y avait un mec du team Amani qui est parti juste avant nous. Et moi, je suis parti en même temps que Ulrich et tout. Et là, on attaquait une grosse montée. Donc, j'ai fait toute la montée avec lui. On était deux ou trois. Et après, on s'est fait rejoindre par deux autres. Et là, je sais pas à quelle position on était, mais on devait être dans les 10-15. Je pense, j'en sais rien en fait. C'était dur à estimer quoi. Et j'ai eu un petit coup de moins bien au kilomètre 130, du coup ça m'a fait décrocher d'eux, et en fait on attaquait une partie bien technique. Mmh. Et là j'ai commencé à un moment un peu plus loin à taper un peu fort le pneu, je me suis dit oula putain, mais je crois que je vais crever. Et en fait non, rien, et en fait finalement j'arrive dans une ville, et là à plat, et d'un coup, et je fais oh non mais c'est pas possible, et du coup je me dis bah le tubeless il a pété, donc pour le remettre avec une pompe à main c'est impossible. Du coup, bah, je me mets sur le côté, je sors ma chambre à air. Et là, je déplie ma chambre à air, je la gonfle. Et là, impossible de mettre de l'air dedans. Je fais, mais il se passe quoi? Et en fait, je sais pas, je pense qu'il y avait un défaut. Donc, impossible à mettre le moindre. Enfin, mettre de l'air dedans. Donc, impossible de mettre une rustine, de réparer. Et j'avais qu'une seule chambre à air. Vu qu'en étant en tubeless, je me dis, quand on perce, on a le temps des fois de mettre une mèche. Mais là, à plat direct. Du coup, un peu la loose. Du coup, bah, je regarde un peu sur mon portable pour voir s'il n'y avait pas une boutique de cycle et tout ouvert, mais rien. Il était 14h en Espagne, ils font tous la sieste. Du coup, désespérément, j'appelle un peu ma copine pour me faire rassurer, vu que j'étais un peu galère, donc j'ai essayé aussi de réparer, mais je pouvais rien faire. Du coup, on parle, machin, elle me dit, essaye de trouver une solution, c'est pas facile, mais bon, bref. Et du coup, pas loin, je vois un espèce de bazar un peu chinois et tout, du coup, je me dis, peut-être par chance, je vais trouver une chambre à air qui peut peut-être rentrer dans mon pneu pour me dépanner. Du coup, j'y vais, elle me montre les chambres à air, mais il n'y en avait pas du tout pour ma taille. Je fais bon, ben, ok, moi je ressors et tout, désespéré et tout. Je vois des concurrents, je leur dis, je les appelle, mais c'est un peu la course, du coup personne ne voulait s'arrêter quoi. Et après, te donner une chambre à air à 190 bornes de l'arrivée, tu peux comprendre qu'ils ne veulent pas quoi. Et du coup, là, je vois un passant que j'avais déjà vu, un mec qui faisait un peu sportif et tout, et je l'interpelle et je lui demande s'il pourrait pas me dépanner, s'il n'aurait pas quelque chose pour moi et tout. Il me fait, ah, mais attends, je vais regarder s'il n'y a pas un magasin de vélo ouvert et tout. Et moi, je lui dis que j'allais regarder et ça ouvrait pas tout de suite, quoi. Et lui, il me dit, ah, mais ça ouvre peut-être bientôt. Et il était 14h, je sais plus, 45, et ça ouvrait peut-être à 15h. Il me dit, bah, je vais t'accompagner et tout. Et du coup, moi, je le suis avec mon vélo et en marchant et tout, et on va jusqu'à une boutique de cycle. Et la boutique de cycle, du coup, on arrive devant, elle était fermée. Et en fait, lui, il va juste à côté, donc je sais pas si c'était son père ou pas. Il va dans une maison, il voit cette personne, et cette personne parlait français. Donc ce qui était pas mal, quoi. C'était pas plus mal que de parler en anglais. Et du coup, il explique, moi, je lui explique mon problème, je lui dis que je suis en course, qu'il me reste 190 bornes. Et il me dit, mais attends, je vais appeler, moi, je sais plus, je crois qu'il s'appelait Marcus ou Marius, là, le mec qui tient la boutique, qui était juste à côté. Donc il l'appelle et il l'a au téléphone, il lui explique mon cas, qu'il est en course, machin et tout. Et le gars, normalement, en fait, la boutique était fermée, en fait, elle rouvrait pas avant le lundi. Et finalement, le gars est venu, alors qu'il habitait à côté, il est venu ouvrir la boutique, il m'a changé mon pneu, il m'a remis en tubeless. Moi, je lui ai acheté des chambres à air, du coup. Donc il m'a remis un nouveau pneu, remis en tubeless et je suis reparti. En mode contre-la-montre pour les 190 derniers, vu que j'avais, je pense, de la 10e place, j'en sais rien, j'étais passé 38e, quoi, enfin, vu que j'avais perdu plus d'une heure. Et du coup, bah, je suis parti pour un contre-la-montre en solo, et c'était cool, quoi, et j'ai quand même kiffé, quoi. Enfin, c'était excellent. Donc voilà ma petite péripétie.
C'est marrant parce que sur cette. Sur ce 350, alors sur le 200 que j'ai fait le lendemain, bah, tu le sais, j'ai roulé avec Mattia de Marquis, ouais. Et c'était hyper impressionnant. Mais sur le 350, il s'est passé tout un tas de trucs. J'ai parlé avec la première féminine, Marion Zidwiznik, et elle m'a dit, elle est tombée au début, sa trousse à outils s'est ouverte, après elle a pris un choc, son guidon s'est complètement tourné quand les vis de la potence sont pas assez serrées. Ouais. Le guidon s'est tourné, comme elle avait pas ses outils, qu'elle était seule, elle pouvait pas redresser son guidon. Alors elle me dit, j'étais super aéro quand même pour terminer la course. Et c'est dingue parce que 350 km, bon, c'est beaucoup pour certains et c'est pas beaucoup pour d'autres, mais c'est quand même globalement une grosse journée de vélo. Et c'est dingue quand même le nombre de petites choses qui peuvent se passer sur une journée comme ça, ce genre de péripéties. Alors que c'est peut-être le truc qui t'est jamais arrivé avant, d'exploser un pneu et de te retrouver dans un magasin avec Marcus à Rosas à réparer ton pneu quand même comme ça.
Oui, non, je crois que ça m'est jamais arrivé à l'entraînement d'être dans une galère comme ça. Quoi. Enfin, ouais, non. Oui, peut-être juste avant la hop, là, une semaine avant, je fais une sortie pour. Bon, du coup, je sors de la traca, mais. Et du coup, en fait, on part avec une copine rejoindre ma copine au lac, là, vu qu'on avait un pique-nique, et à 10 bornes après, en fait, je sens que ça saute et tout, j'ai l'impression de m'être pris un truc dans les galets. Enfin, et en fait, non. Je repédale et tout, et en fait ça saute, et en fait ça a craqué, et j'ai pété mon corps de roue libre. Et du coup, bah, impossible, enfin, tu peux plus rouler, quoi. Et là, du coup, j'appelle ma copine, je fais bon, bah, je suis en galère, j'ai pété le corps de roue libre, donc pas se me prendre en allant au lac, quoi. Bon, heureusement, c'était une semaine de la hop, je me suis dit, bon, vaut mieux que ça m'arrive là que pendant la hop, quoi. Mais sinon, à part ça et sur la traca, j'avais jamais connu une galère qui m'empêche de. Enfin, ouais. Qui m'empêche de rouler, quoi.
Et. Sur la traca, il n'y a pas un moment donné où tu t'es dit c'est bon, j'abandonne parce que là, hein, voilà. Jamais l'abandon ne t'a traversé l'esprit.
Bah, si,
c'est un mot qui ne fait pas partie de ton vocabulaire.
Bah, j'ai du mal à abandonner, mais après j'essaie toujours de trouver une solution. Mais c'est vrai que là, j'étais un peu désespéré. Enfin, je ne trouvais rien. Bah, après, j'avais appelé ma copine, j'avais dit mais je crois que je vais abandonner, mais en fait, j'ai regardé, mais c'est galère pour rentrer. C'était galère pour rentrer avec un vélo, il fallait trouver un train, mais il n'y en avait pas. Donc finalement, j'ai tout fait pour pouvoir réparer, quoi, vu que finalement, j'aurais autant galère pour rentrer comme ça, quoi. Ça sort... J'aurais pu faire du stop, mais bon. Bon, finalement, c'est pas, c'est bien fini, quoi.
Ça s'est quand même bien goupillé. Et du coup, j'ai regardé un petit peu ton Strava. J'ai vu que tu as bien roulé tout au début de l'année. Tu as fait, je crois, la Corima, la Drôme Corima truc.
Ouais.
Tu as fait quelques trucs au Ventoux. Du coup, ça t'a bien mis d'équerre aussi quand même pour la suite de la saison. Et ça, finalement, c'est un petit peu la course qui a lancé ton, ton année et qui t'a peut-être permis de aussi briller après sur la, l'Arabe 500 et sur, sur la Hope. Parce que ça t'a quand même mis bien d'équerre, ce 350.
Oui, c'est sûr que ça m'a fait du, ça a fait du volume. Hein. De toute façon, je cherchais ça. Hein. C'était ma première course gravel. Ça, je voulais prendre de l'expérience. Enfin, hein, ça me plaisait. Tout se goupillait bien avec mon boulot. Du coup, je me suis dit feu. Et en plus,
ouais.
Enfin, tout avait l'air énorme. Le parcours était, avait l'air énorme et énorme. Enfin, c'est vraiment une terre de gravel. Et c'est vraiment un beau rendez-vous. Ouais. Quoi. Enfin, je pense que tu vas pas dire le contraire, je pense.
Ah bah, c'était ma deuxième édition et j'en ai encore pris plein la tronche.
Mmh.
Et toi, bah, t'as roulé avec la Clan Morton, j'ai roulé avec Mathia de Marquis. Le samedi soir, j'étais en train de regarder l'arrivée, puis derrière moi, il y avait Lauren Stendam,
ouais.
8e du Tour 2014, hein, quand même, pour ceux qui ne sauraient pas qui c'est, mmh. Qui est reconverti au gravel. Je suis allé le voir comme ça, discuter, super cool et tout, et c'est vraiment la folie. En plus, vraiment dans une ambiance, mais tellement décontractée, quoi. Il y a un niveau, bah, comme tu l'as dit, un niveau vraiment très très relevé et extrêmement dense, parce qu'on peut tomber sur des épreuves où il y a quelques mecs très très forts, mais après, le niveau est beaucoup plus éparse. Mais là, il y a non seulement un niveau extrêmement élevé, mais en plus une densité où on va retrouver un paquet de mecs du même niveau que nous. Donc c'est vraiment pas facile d'aller grappiller une place. Et puis aussi, en termes de matériel, là, on prend une claque, quoi, parce que...
ouais, c'est clair.
Ouais, c'est vraiment pas le même niveau, là. C'est, vrai, c'est vraiment du... c'est vraiment une course de passionnés et qui se donne à fond dans la pratique.
Mm.
Et ça va vite. Ça va très vite. Et tout ça, en plus, dans la bonne ambiance, quoi.
Ouais, non, c'est clair.
Ça, c'est cool.
Et l'orga est énorme. Hein. Enfin, je me souviens, enfin, toutes les intersections, il y avait quelqu'un qui était là. Enfin, c'était vraiment impressionnant, franchement. Ouais, non, c'est un sacré événement, quoi. On comprend pourquoi il y a autant de niveaux, finalement.
Moi, je pense que je n'y retournerai pas, mais parce que j'en ai fait deux. J'ai fait la première il y a 3 ans et puis j'ai fait celle-là. Donc ça va aller maintenant, mais en tout cas, je conseille à quiconque d'aller se taper le 100, le 200 ou le 350 parce que c'est vraiment bien. Et du coup, après, changement d'ambiance, t'es rentré à la maison, tu t'es remis sur la route pour faire la Race Across Belgium, 500 km. Alors, le 500 km, j'ai pas eu d'écho sur le 500 km. Sur le 1000 et quelques, je sais que beaucoup ont été surpris par la difficulté du parcours. Beaucoup se sont dit... C'est bon, c'est la Belgique, c'est le plat pays, ça va être relax. Et beaucoup se sont fait exploser la tronche par la difficulté du parcours. Et toi, sur le 500, ça s'est passé comment?
Bah, le 500, du coup, bah, qui fait finalement 570. Non, très, très dur. Enfin, franchement, vraiment costaud. Elle se mérite. Hein. Bah, du ouais. coup, moi, j'habite j'habite en Isère. Ça grimpe de partout. Enfin, j'adore l'école et tout. Mais là, c'est vraiment des pétards, c'est pétard sur pétard. Enfin, en gros, on avait une boucle de 200 assez plate, enfin, 220. Il y avait 1600, je crois, de dénivelé. Ouais. Et tout le dénivelé, on l'avait sur la boucle de 330, 340. Et là, il y avait, je sais plus, 4000, 5000, vu qu'à la fin, je finis avec 7000 de dénivelé, quoi. Mais c'était que des pétards et... Ouais, que des murs, et c'est vraiment casse-pattes, quoi. Ça s'arrête jamais, en fait. T'es tout le temps en prise. Ouais. C'est pas comme un col super régulier où tu peux mettre dans une allure constante. Là, t'es toujours, enfin, dans du plus de 12%, t'es obligé d'y aller, quoi. Enfin, et du coup, non, très cassant, franchement, mais magnifique.
Ouais.
Là, c'était tous les murs des grandes classiques belges et tout. Donc, quand t'es passionné de vélo, enfin, c'est énorme, c'est le kiff.
Donc t'es passé du rêve de rouler avec la Clan Morton, le truc qui t'arrivera certainement qu'une fois dans ta vie, à te taper tous les pétards des classiques flandriennes.
Mmh.
Donc une année, finalement c'est l'année où t'es revenu à l'amour du vélo, quoi.
Ouais, c'est ça, ouais. Bon, c'était même pas prévu l'arabe, hein. C'est que finalement ça s'est aussi bien goupillé avec mon boulot, enfin, j'avais pas de déplacement, j'avais pu faire le pont, et du coup j'avais vu cette course en Belgique, j'ai dit à ma copine, ça te dit d'aller en Belgique, vu que je vais pas la laisser toute seule à la maison, et je me suis dit, profiter des 4 jours pour monter, d'aller visiter et tout, et du coup on est monté là-haut, j'ai fait la course, on a visité Bruxelles la veille, vu mes cousines, donc tout s'est bien goupillé, quoi, enfin, c'était tout bien, et la course super, voilà. Quoi.
Elle s'est reposée, elle a mangé du schtoump et du chocolat.
C'est ça, des voilà. Frites et tout, et des gaufres.
Bah ouais. Super. Mm. Bah la prochaine fois je viens avec toi, hein, parce que c'est à peu près la base de mon alimentation, donc du schtoump, des frites et des gaufres, j'adore ça.
C'est la mienne aussi, donc ça tombe bien.
Super. Bon, on va bien s'entendre, c'est déjà ça.
Super.
Tu sais quoi, j'ai une anecdote de dingue. Vous allez avoir un garçon ou une fille?
Un garçon.
Hier, j'ai mené une interview pour le magazine, et le mec me dit, alors je vous dirai pas avec qui c'était, quelle entreprise, parce que c'était pour la rubrique industrie, et le gars me dit, bah, je suis désolé, je suis en retard, je me suis occupé de mon fils et tout, et en fait... il s'avère que son fils a le même prénom que le mien et il m'a dit, il est belge, il m'a dit des prénoms comme ça, donc Harry, Aéry, il y en a 20 en Belgique. Alors en France, je sais pas combien il y en a très très peu aussi. Et du coup, c'est hyper drôle parce que nos fils avaient le même prénom. Et encore plus drôle, sa copine a le même prénom que ma fille. Donc là, on était totalement en phase, c'était extrêmement drôle. Voilà.
Pas mal.
Fin de l'anecdote, c'était hilarant, tout le monde est mort de rire, ils se disent oh, putain, l'anecdote c'était trop nul, j'espère qu'il va couper ça au montage. Eh bien non, j'assume, je ne couperai pas au montage. Et ouais, je garde, j'assume, c'est pas un problème. Et donc, l'objectif c'était la hope, c'était prévu, alors laisse-moi deviner, c'était pas prévu, mais par contre ça s'est bien goupillé avec le travail, et t'as dit à ta copine, viens on va en Suisse.
Non, par contre, pour dire vrai, la hop, c'était prévu depuis un moment. Enfin, moi, je l'ai déjà faite en 2021. Dès que j'ai fini la hop en 2021, on se dit toujours non, mais on n'y retournera pas l'année suivante et tout. Et finalement, enfin, c'est tellement une course de fou que j'ai dit, bah allez, j'y retourne. Et en fait, déjà l'année dernière, j'avais embarqué un ami dedans. Et du coup, ce même ami m'a dit, bah allez, moi aussi, j'y vais. Et quand on est deux, bah, la préparation, elle colle un peu. Et ça te motive, quoi. Et du coup, moi, j'ai dit, on y retourne. Et lui, il y est retourné aussi. Et du coup, voilà. Du coup, non, ça, c'était prévu, ça.
Alors,
c'était prévu depuis longtemps.
L'année dernière, donc, tu l'as fait avec... Donc, tu as croisé Marin. Ouais. Il était devant toi ou tu as roulé avec Marin? Ça s'est passé comment l'année dernière, déjà?
Avec Marin, on s'est pas mal croisé. On se doublait un coup. Enfin, il est parti plus fort que moi. J'ai peut-être plus dormi que lui au début. Et après, on s'est rattrapé, on se doublait, il me redoublait. Moi, j'ai eu un problème de frein l'année dernière, avec de l'huile sur un disque et tout, donc ça m'avait bouffé mes patins, j'avais dû trouver des patins, bref, j'avais galéré, là, il était un peu parti. Et finalement, on se redoublait, et après, on a fini les 150 derniers kilomètres, je crois, ou 100, ouais, il restait 110, on s'est retrouvés ensemble. Et on a dit, bon, allez, on parlait et tout, et on a dit, on roule ensemble, et... Moi, je pensais pas du tout au record, en fait. Enfin, c'était vraiment ma première longue, c'est mon premier 1000. Et Marin me dit, je pense que le record est jouable. Et j'ai dit, bah, écoute, s'il est jouable, on y va. Et il me fait, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux qu'on fasse la guerre tout de suite ou on l'a fait, on roule ensemble et on l'a fait dans les deux derniers cols? Je fais, bah, écoute, franchement, moi, je kiffe de finir, enfin, que ce soit premier ou deuxième, en fait. Je m'en fous, je m'en tape. Enfin, des fois, la place, c'est pas ce qui m'importe le plus, en fait. Et j'ai dit, bah, je le voyais joueur, il est plus jeune, il est fougueux. Et j'ai dit, bah, allez, on fait la guerre dans la fin, comme ça on roule ensemble, on fait un bon tempo. Et du coup, on a roulé pendant 80 bornes ensemble, je pense, je dirais. Et après, du coup, ça c'est dans l'avant-dernier col, ça partait limite en attaque et tout. Et tu te dis, après 950 bornes. Et du coup, dans le dernier col, il me lâche. Mais de toute façon, comme il était parti quelques minutes après moi, du coup, si on arrive ensemble, il gagnait finalement. Et il m'a lâché et finit. Je crois qu'il finit avec 20 minutes d'avance en tout, enfin en décomptant le temps de. Donc, ouais, tu te dis sur 3 jours et 17 heures, il y a 20 minutes qui s'est joué, mais bon, c'était énorme. Franchement, Moi, j'étais ravi de cette deuxième place. Enfin, finalement, c'était anecdotique, quoi. Mais du coup, ouais.
Et après avoir fini deuxième l'année dernière, est-ce que tu t'es dit « c'est un coup de bol, j'ai fait deuxième » ou est-ce que je peux gagner ? Tu t'es dit quoi ? J'y retourne pour faire quoi ?
Ah, j'y retourne.
Pour vérifier si j'ai de la chance ou pour gagner ?
Bah, c'est vrai que tout s'était bien goupillé, mis à part mon truc de frein, enfin de dormir 3 jours dehors. Enfin, je connaissais pas ce genre d'effort, j'avais jamais fait si long. Du coup, c'est compliqué de savoir finalement avant de partir. Du coup, ben, j'écoute pas mal de podcasts, j'entends des trucs. J'avais déjà entendu Sofiane, Adrien sur la Hop qui parlait. Du coup, ça aide en fait finalement, même si on n'y va pas, on n'y a pas été, ça nous projette. Et du coup, j'ai voulu retourner pour. Je me disais, il y avait quelque chose à faire, quoi. Enfin, selon le plateau aussi, hein, on n'est jamais au courant du plateau, mais j'avais l'intention de gagner, même si je le disais pas ouvertement, je suis pas quelqu'un qui est comme ça, quoi. Et après, je pensais aussi au record dans ma tête, je me disais, si tout se goupille bien, vu que l'année dernière, tous les soirs, on avait des orages, du coup, je me dis, si ça se goupille bien, je peux gagner du temps, vu que des orages, ça te calme un peu quand même, enfin, tu perds un peu de temps, si j'ai pas de problème de frein, je peux gagner du temps là, mais... Du coup, je me disais, il y a la possibilité aussi d'améliorer le chrono, quoi. Et voilà. Mmh. Donc, je partais avec cette optique-là, mais sans me mettre de pression, vu que finalement, des fois, en y pensant trop, c'est là qu'on se met une pression et qu'on foire sa course, quoi. Donc, voilà.
Oh, je laisse un petit instant de malaise là.
Non, pas du tout. Non.
C'est bien. Non, mais un petit peu de silence, tu vois, dans ce monde de brut. Tiens, regarde.
Ouais, je vois ça. Ouais, ça fait bizarre.
Bon, ouais. Alors, et du coup, cette année, ça s'est passé comment ? Comment t'as bossé le sommeil ? Le sommeil, le bivouac, comment t'as rebossé un petit peu cette stratégie ? Parce qu'on a bien compris que tu roules fort. Quand t'as pas de problème technique, en tout cas. Désolé, celle-là était trop facile, fallait que je la sorte.
C'est pas grave. Non, franchement, j'ai pas bossé le sommeil. Après, j'ai de la chance de pas être quelqu'un qui a besoin d'énormément de sommeil, quoi. Enfin, j'ai pas besoin de quelqu'un qui a des besoins de nuit de 8 heures, quoi. Enfin, le matin, je me lève à 5 heures du matin, du coup, je suis quelqu'un de matinal, quoi. Donc, le sommeil, j'ai pas travaillé. Je ne l'ai pas travaillé, c'était pas sur un point où je me disais que je pouvais énormément gagner. Enfin, j'avais déjà pas beaucoup dormi en 2021. Je crois que j'avais dormi à peu près 7 heures. 7... Ouais, 7 heures, donc ça fait déjà pas beaucoup. Donc je pouvais pas gagner plus que ça. Enfin, finalement, passer moins sur 3 jours, presque 4 jours d'effort, c'est un peu suicidaire quand même. Enfin, du coup, non, j'ai pas particulièrement bossé le sommeil. Je n'ai même pas bossé du tout, on va dire.
Ouais. Voilà, donc t'es parti sur ton rythme habituel, parce que oui, manifestement, t'as pas l'air d'avoir besoin de beaucoup dormir, donc c'est plutôt une chance, et crois-moi, ça va te servir dans 2 mois.
Ouais.
Et tu verras. Et, comment dire, sur tout le reste, sur toute ta gestion d'allure, t'es parti sur les mêmes bases que l'année dernière, tu t'es dit « je pars plus fort, je pars moins fort ». J'essaye de porter mon effort à certains moments du parcours pour consolider ma place ou remonter des places. Comment t'as géré ton truc ?
Franchement, j'ai pas voulu.
Est-ce que tu voulais gagner ? Est-ce que t'es parti comme un malade ? Est-ce que t'as fait le départ ? T'as fait les pancartes ? Ou au contraire, est-ce que connaissant le parcours, t'as géré ton effort un petit peu différemment pour gérer ton énergie différemment et attendre certains passages clés ?
Non, franchement, je crois que je me suis pas pris la tête. J'ai même pas regardé mes chronos de l'année passée. Je voulais aucun repère en fait. J'avais déjà des repères pour moi de où j'avais dormi, à peu près à quelle heure. Du coup, pour moi, j'avais ces repères, mais déjà ces repères-là, en fait, je voulais limite les effacer de moi vu que, en fait, j'avais peur que finalement, quand t'as des repères sur une course que t'as déjà faite, bah, tu peux te mettre une pression à te dire bah, je suis en retard de 2 heures, je suis en retard, je suis en trop en avance. Ouais. Et là, te poser des questions. Et en fait, j'avais aucun repère. C'est juste la veille au téléphone, j'ai ma copine et je sais qu'elle avait regardé un peu. Et je lui ai juste dit, dis-moi, juste à l'heure que j'étais arrivé, à peu près au 500e. Et du coup, après, j'avais fait, non, mais dis-moi pas. Et finalement, j'ai dit, dis-moi. Et j'avais juste ce repère-là, en fait. Mais je l'avais laissé dans un coin de ma tête, mais pas. Mais j'avais pas fait une fixette, et après, je sais pas. Enfin, j'étais parti. Je sais que les 100 premiers kilomètres sont très roulants quand même. Il n'y a pas énormément de difficultés. Et du coup, tu n'avais pas à avoir tendance à partir super fort. Donc, j'ai essayé de partir. Enfin, comme l'année d'avant, je pense. Je suis parti vite, mais pas super. Enfin, pas être entamé, quoi. Un bon train, mais sans mettre vraiment. J'étais pas dans le rouge, quoi. Parce que du coup, je connaissais toutes les difficultés qu'il y avait.
T'avais pris quoi comme vélo?
J'avais le même que l'année dernière.
T'avais pris quoi comme vélo?
Un Rockrider XC900 en carbone. Un haut de gamme en semi-rigide de Decathlon.
Tout suspendu donc?
Non, semi-rigide.
Semi-rigide? Ouais, ouais, semi-rigide, ouais.
J'avais le même cette année que l'année dernière.
Pourquoi?
Bah pourquoi? Parce que je peux pas changer toutes les années de vélo. Déjà que j'ai changé en début d'année, je me suis fait un petit plaisir, j'ai changé de vélo
ah
de
bon
route. Bah non, bah non. J'ai pas de partenaire en cycle, donc je peux pas me permettre de changer de vélo.
Les artisans, c'est plus ce que c'était, hein. Ça gagne pas autant qu'avant les artisans. Hein.
Bon, j'avais changé de vélo de route en début d'année, donc je peux pas changer de vélo toutes les années et de tout. Si je change de gravel, de route et de
VTT, voilà, d'accord, année, ok. Tu t'es pris quoi comme vélo de route alors?
Bah avant j'avais un.
Tu t'es pris quoi comme vélo de route alors?
J'avais un Between du coup, un haut de gamme de chez Decathlon, pareil, bon, j'aime bien Decathlon. Hein. Et là j'ai un Giant, un Défi Prod 27.2. Donc voilà, je voulais des freins à disque sur mon vélo de route et ce petit caprice m'a fait changer de vélo.
Donc ça veut dire que tu as orienté un petit peu ta pratique vers... même pour la route, tu t'es quand même clairement orienté vers l'ultra avec les freins à disque et tout qui apportent plus de sécurité, plus de puissance, plus de stabilité dans le freinage. Quand même,
ouais,
et surtout sur des parcours plus montagneux.
Ouais.
Et comme tu me disais, ce week-end, tu vas t'inscrire au Biking Manora, ainsi qu'au grand concours des sosies de Axel Carion, parce que apparemment, on t'a déjà fait la réflexion. Tu m'as dit tout à l'heure.
C'est pas le premier.
Ouais, bah je sais bien. J'aimerais croire que je suis un innovateur, mais en fait, je passe derrière tout le monde, donc. C'est pas très reluisant comme situation.
Il y en a qu'un qui me dit ça avant, voilà. Hein, c'était en Corse.
Sur le Biking Man.
C'était le deuxième quand même.
Ah oui, d'accord, non mais en plus, oui, si c'était un Corse, non mais attends, un insulaire, non mais franchement. Du coup, sur le Biking Manora, tu projettes quoi?
Je projette de le
finir. À part finir, tu veux faire un... Gagner?
Ah, j'en sais rien. Enfin, gagner, c'est facile de dire gagner, mais tu sais jamais il y a qui au départ. Tu sais jamais. Enfin, je sais pas, j'ai jamais, même en trail, j'ai jamais dit je vais gagner. Je sais pas, je vais déjà me faire plaisir. Et si je me fais plaisir et que tout se passe bien, la performance, elle sera là.
Bon, alors ça, se faire plaisir, c'est une expression qu'on entend souvent, surtout chez les pros français, genre Thibaut Pinot ou Romain Bardet, qui disent « Ouais, c'était vachement bien, je me suis fait super plaisir, aujourd'hui je fais 17e de l'étape, même putain, qu'est-ce que je me suis fait plaisir ?» Ça veut dire quoi, se faire plaisir pour toi? C'est quoi te faire plaisir à vélo? Sur une épreuve comme ça longue, le plaisir, tu le trouves où?
Bah, le plaisir, c'est le plaisir déjà de ne pas avoir de problème.
Il se matérialise comment?
Bah, c'est de profiter au maximum du moment, c'est de pas avoir de problème, que tout se passe bien, de pas avoir de coups de moins bien ou de gros coups de moins bien. C'est ça pour moi le plaisir. Enfin, si tous les trucs sont alignés, c'est ça pour moi le plaisir.
Moi j'ai une définition assez proche de toi. Souvent les gens en ultra, en gravel, ont une vision de ce qu'on appelle la performance un peu déformée. Et en fait, j'en suis arrivé à une théorie qui est que faire une performance, c'est avant tout, c'est pas forcément faire une place au classement, ça peut être finir bon dernier, mais finir relativement frais, en bon état, sans avoir rien cassé, sans être tombé et sans avoir eu de problème majeur et sans être totalement écœuré de la pratique. Est-ce que tu es à peu près d'accord avec ça?
Oui, je suis d'accord. Après, des fois, tu trouves même du plaisir dans des moments difficiles, finalement. Enfin, après les moments difficiles. Pour revenir un peu sur la hop, au début, tout s'est bien passé. Enfin, il fait ultra chaud. Du coup, je me suis pris un coup de chaud. J'ai vomi. Juste après, je suis tombé. Du coup, là, le plaisir, il n'y était plus trop. Enfin, j'ai eu une nuit un peu galère, je voulais limite abandonner. Enfin, du coup, j'ai appelé le lendemain matin, j'ai appelé ma copine. Enfin, toujours pour se rassurer, pour avoir des petits mots, enfin, qui te rassurent, qui te disent de continuer, quoi. Vu que sur la hop, en gros, sur au kilomètre à peu près 290-300, il y a un couple dont le mari a déjà fait deux fois la hop. Ils habitent pile poil sur le parcours et ils font un espèce de ravito un peu sauvage. Et du coup, enfin, l'année dernière, c'était énorme. Petit sandwich, petit truc. Enfin, t'es aux soins, ils prennent soin de toi. Enfin, ils t'alimentent. Moi, j'étais pas au courant l'année dernière. Du coup, quand tu tombes sur ça, tu fais waouh. Et du coup, sur la hop cette année, après ma nuit un peu galère, malade et tout, vomi, j'arrivais plus trop à manger. Du coup, là, moi, je voulais abandonner. Je me dis, c'est pas possible, je prends pas de plaisir, je suis pas bien, j'ai pas de force. Et du coup, ma copine me fait, allez, dans 30 km, t'arrives au kilomètre 290, et s'il y a toujours ce ravitaillement, ça va peut-être te faire du bien, tu te poses, tu manges, tu machin. Du coup, je suis arrivé là-bas, il faisait déjà ultra chaud, c'était déjà 10h du matin, c'était pendant la canicule, du coup, les températures, c'était une folie, quoi. J'ai jamais vu ça sur un vélo, même en trail, n'importe quand. Bref, et du coup, j'arrive là-bas, pas bien et tout, je me pose, la femme me fait, ouais, ça va, elle voit que je suis brassé et tout, elle me fait, si tu veux, j'ai un bouillon et tout. Et là, quand il fait super chaud et tout, t'as pas trop envie de boire un bouillon, mais finalement, comme elle avait raison, enfin, t'as plein de sel, t'as plein de minéraux, et du coup, bah, j'en ai bu, ça m'a fait du bien. Elle m'a donné un stick de magnésium, j'ai pris un sandwich, je suis parti et tout. J'ai beaucoup bu et tout chez elle. Et après, je suis parti et en fait, elle m'a sauvé ma course, en fait. Vu que du coup, un peu plus tard, j'ai pu recommencer à m'alimenter et tout. Et en fait, ce bouillon, enfin, il faut d'ailleurs que je lui écrive, vu que j'ai demandé à l'organisateur le mail de cette femme-là, pour la remercier, vu que en fait, elle m'a sauvé ma course, quoi. Après, j'ai recommencé à... j'ai pu de nouveau m'alimenter normalement et faire ma course normalement.
Ouais, parce qu'on l'a pas mentionné ça, mais il a fait extrêmement chaud, horriblement chaud. Et quand on s'est parlé il y a une semaine ou deux semaines, tu m'as dit ouais, attends, laisse-moi reprendre un petit peu, laisse-moi quelques jours parce qu'il faut que je récupère mes lèvres, quand même.
Oui, bah pour t'expliquer, du coup, c'est vrai qu'en disant ça, c'était un peu bizarre, mais en fait, il faisait ultra chaud. Moi, j'avais pas de crème solaire, j'avais pas de baume. Enfin, tu pars avec le minimum, quoi. J'aime bien être léger, et c'est vrai que y a des trucs que tu prends pas, quoi. Et en fait, j'avais les lèvres ultra gercées, mais vraiment un truc de fou. Enfin, de toute façon, j'ai l'impression que la chaleur, là, c'était vraiment impressionnant. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça. Enfin, j'étais à un moment à 1400, je regarde sur mon compteur. Des fois, je voulais même pas regarder appuyer pour voir la température, mais j'étais à 1400, il faisait 38 degrés. Pas un brin d'air, et je fais waouh. Et la veille, on longeait un lac, on était à 700 d'altitude, je regarde mon compteur, je vois 44 degrés. Je fais, mais c'est pas possible. Enfin, franchement, c'était un four. Je me souviens que le premier jour, du coup, j'étais malade et le lendemain matin, je reçois un message sur un groupe WhatsApp là et j'ai un pote qui fait bah aujourd'hui normalement il devrait faire meilleur, enfin il devrait faire moins chaud, mais en fait il faisait plus chaud que la veille. Et ça pendant 3-4 jours, bah, on était pile dans la canicule. Bah d'ailleurs, bah du coup l'organisateur Willy de la Hop là, il l'a fait chaque année normalement cette course. Et le dernier jour, j'ai regardé un peu de sur le classement et je l'avais pas vu. Du coup, je me suis dit, il a abandonné et je pense qu'il a peut-être jamais abandonné. Et en fait, du coup, le lendemain que je suis arrivé, il m'appelle pour me féliciter et tout. Et il me dit, j'ai abandonné, enfin, je suis déjà malade la semaine dernière, du coup, avec la chaleur, ça a pas aidé, du coup, j'ai arrêté. Et il me fait, chez moi, en fait, au kilomètre 500, on arrive chez lui, en fait. Et du coup, il m'a dit, on est quand même en altitude, je sais pas, on doit être à plus de 1000, je sais plus trop. Il dit, j'ai jamais vu des températures si hautes, quoi. Il m'a dit la température, je sais plus c'était combien, mais en gros, il disait qu'il avait jamais vu ça chez lui, quoi. Et du coup, mais c'était vraiment impressionnant, cette vague de chaleur, là. J'ai l'impression d'être dans un four, du coup. Après la course, j'avais le nez brûlé, j'avais même la langue toute rêche, là, pendant 2-3 jours. Et j'avais perdu des goûts, quoi. Et c'était impressionnant, enfin. Je buvais un midi, j'ai bu une grenadine, je sentais même plus le goût de la grenadine. Enfin, en fait, la chaleur et plus peut-être le fait de vomir, ça m'a complètement décalqué, quoi.
Donc voilà. Et tout à l'heure, quand on a commencé à parler, avant qu'on lance l'épisode, tu m'as dit sur la question comment se passe la récup, tu m'as dit ouais, ça va, ça commence à aller mieux. Ça t'a quand même secoué.
Ouais,
ça
bah,
t'a secoué fort.
Je pense la chaleur plus bah, la fatigue, hein, vu que déjà l'année dernière, je me souviens, enfin, j'avais mis une semaine, 10 jours à récupérer de la fatigue. Enfin, tu passes pratiquement 4 jours à rouler. Là, cette année, j'ai que dormi 6h30, quoi. Ouais, 6h30, 7h comme l'année dernière, en fait. Et du coup, ça, c'est ça le plus dur. Enfin, musculairement, tu récupères super vite, j'ai l'impression. Enfin, j'avais pas fait de vélo tout de suite, quoi. Mais en fait, c'est la fatigue, quoi. Enfin, tu sens ton corps qui est limite à 10% de ce qu'il peut et t'es au boulot, t'as pas de rendement, t'as rien. Enfin, alors que je suis quelqu'un d'assez speed et je pensais qu'un truc, c'était me poser dans le canapé. Ouais, ça fait depuis 2 jours, quoi, je me sens déjà mieux, quoi. Où j'ai plus de fatigue, où je suis plus.
Ouais.
Mais ouais, mais bien une semaine à s'en remettre vraiment, quoi.
Et là, tu commences juste à te sentir mieux physiquement et même globalement à avoir soigné tous tes petits bobos. À un mois du départ du Biking Manora, qui va encore te pousser un petit peu dans tes retranchements, où il va y avoir du dénivelé, il va peut-être y avoir une petite vague de chaleur également à ce moment-là. Ça va pas non plus se faire tout seul, cette histoire. Ça va pas être une soirée crêpe. Comment tu vas te débrouiller pour récupérer mentalement, pour retrouver des ressources mentales à aller te mettre dans cet état-là encore une fois pendant 2-3 jours, 2 jours et demi, disons, pour toi?
Bon, là, je récupère bien. Là, j'ai juste fait un petit tour de vélo il y a 2 jours, vu que j'avais des potes qui faisaient une petite sortie VTT, un apéro après. Du coup, je me suis dit, bah, allez, je vais aller rouler un peu. Je pouvais pas louper ça. Surtout l'apéro.
Laisse-moi deviner, t'as coupé la sortie VTT et t'es allé à l'apéro direct.
Non, même pas, ça va, on a fait qu'une heure et demie de VTT, donc ça va. L'apéro, il est vite arrivé. Donc okay. C'était assez cool.
Par contre, 4 heures d'apéro, par contre.
Ouais, pas loin. Et du coup, je sais même plus où j'en étais, du coup, j'ai perdu le fil.
Retrouver de la fraîcheur mentale pour le Biking Man.
Ouais, ben, je sais que l'année dernière, j'avais déjà fait l'enchaînement. J'avais fait Hop et la RAF 1000. J'étais pas trop mal. Enfin, ouais, j'étais pas trop mal. Je me souviens qu'il est super chaud à la RAF et tout. Donc... Mais oui, après, je peux peut-être potentiellement avoir pareil, vu que c'est le 6 août. Du coup, ça me laisse un peu plus de...
Oui.
Une plus grande transition entre les deux, quoi.
C'est quand même dans un petit peu plus d'un mois, donc c'est quand même pas mal. Un petit peu plus d'un mois entre les deux, c'est bien.
Même si entre deux, je vais faire un petit off dans les Pyrénées avec un pote. Donc, ouais, je pense que musculairement, ça ira. Après, oui, c'est sûr que mentalement, je sais que l'année dernière, sur la RAF, à un moment, je m'étais dit, mais pourquoi, en fait, je reprends le départ. Mais une fois sur le vélo, enfin, c'était trop bien. Enfin, t'oublies, mais c'est... T'as toujours de l'appréhension à te dire est-ce que t'as bien récupéré, est-ce que si, est-ce que ça. Donc je vais tout faire pour récupérer, je pense que ça va le faire. Quoi. Un mois, un peu plus d'un mois, ça laisse le temps. Quoi.
Ouais, et puis tu commences à être bien expérimenté, donc au bout du compte, tu vas pas non plus te mettre dans une situation où, à moins que vraiment il y ait un problème technique et encore que. Il y a toujours la possibilité d'abandonner, même si on n'aime pas ça, mais t'as quand même maintenant suffisamment expérimenté pour pas te mettre dans une situation trop périlleuse et gérer ça paisiblement.
Ouais, bah c'est sûr que du coup, plus on en fait, plus ça aide aussi. Donc, oui, je sais, je connais mon corps, je sais que j'irai pas faire n'importe quoi. Enfin, si je suis fatigué, si je suis pas bien, enfin. Je mettrai le clignotant ou je dormirai un peu plus. Enfin, je trouverai des solutions, quoi. Ouais. Je ferai tout pour pas abandonner quand même, mais bon, j'y penserai pas, je pense. Mais ça sera l'ultime recours. Mais de toute façon, je vais pas prendre le départ en me disant je peux abandonner. Je verrai. Enfin...
Alors, que tu prennes le départ en ne disant pas oui, je pourrais abandonner, ça je le comprends, parce que sinon c'est trop facile, on met le clignotant à la moindre occasion. Par contre, excuse-moi, mais si tu y vas pas pour gagner, pourquoi tu y vas?
Bah, j'ai jamais dit que j'allais pas pour gagner. J'y vais pour faire le maximum. Après, si je suis bien, s'il y a tout qui se passe bien, j'irai faire le maximum. Mais le maximum, c'est gagner, podium, même cinquième. Enfin, comme je dis, ça dépend tellement de qui a le départ aussi. Donc, et ça dépend de ta forme. Ça dépend.
J'ai l'impression qu'il est attendu, celui-là.
Ah ouais?
Ouais.
Ouais, c'est possible. Hein.
J'ai l'impression qu'il est attendu, ouais, qu'il y aura beaucoup de monde.
Ouais.
Il y aura beaucoup de monde, en tout cas en volume de participants, il y aura du monde. Après avoir la densité de participants, il va aussi tomber sur une période estivale où il fait chaud, les journées sont plus longues, donc les gens ont un petit peu plus le temps ou le goût à aller rouler, ce qui n'est pas forcément le cas pour faire un truc en avril ou en mai, quand on sort d'un printemps ou d'un hiver un peu merdique. Là, ça tombe pendant les périodes de congé, il y a un petit peu moins de fatigue, c'est plus relax, donc peut-être qu'on peut voir un niveau global un poil plus élevé, en effet.
Ouais.
Ou une petite prise de risque plus élevée aussi, avec les températures, avec la longueur des journées. Ça peut être intéressant.
Mmh. De toute façon, après, moi, j'aime bien... Enfin, quand je fais des courses, je ne cherche pas non plus qu'il n'y ait pas de densité. Enfin, je préfère faire dixième à une course qui est ultra relevée que de gagner tout seul. Quoi. Enfin, t'as pas d'honneur. Enfin, t'as pas d'honneur. Chacun...
Ouais.
Moi, c'est mon estime de la performance. Quoi. Je préfère avoir bataillé et avoir fait dixième, quinzième, j'en sais rien. Mais... Enfin... Il n'y a pas que la victoire qui compte pour moi.
On en a vu récemment. J'en ai vu un qui s'enorgueillait d'avoir gagné un Gravelman. Alors qu'il n'y a pas de classement, c'est pas une course. Il n'y a pas de tracker. Enfin, si, il y a un tracker, mais uniquement pour la sécurité et pour les proches. Mais il n'y a pas de classement, il n'y a rien. Mais par contre, sur les réseaux, j'ai gagné le Gravelman machin. Putain, c'était vachement impressionnant, hein, dis donc. C'était bien.
Après ces courses-là.
Je pense qu'il ne m'écoute pas, donc à la limite, je peux me permettre.
Après ces courses-là, c'est une course sans être une course. Du coup, tu ne sais jamais si c'est. Donc, il dit toujours qu'il y a. Steven dit toujours qu'il y a un premier, un deuxième, machin. Donc, tu prends en jeu, même si. J'en ai déjà fait deux, donc je sais ce que c'est.
Il en faut un.
Oui.
Il faut bien quelqu'un qui arrive en premier, mais de là à clamer une victoire sur un truc où il y a un. Quand même. Et puis même si ça en était, ça vaut pas le coup de se gargariser comme ça. Tu vois, même la clan ou Mathia ou Geoffrey, ils se pignolent pas comme ça sur les réseaux quand ils gagnent un truc. Donc, faut quand même, ça reste quand même que du vélo, quoi.
C'est sûr.
Donc, faut quand même de temps en temps un poil d'humilité. Alors, j'ai bon dos de dire ça parce que je sais pas ce que c'est l'humilité, mais un petit peu d'humilité quand même des fois, ça fait pas de mal.
Ouais, après souvent, de toute façon, ceux qui crient, moi je trouve que c'est un beau monde. Enfin, moi j'ai l'impression que l'ultra distance c'est un peu le trail il y a 10 ans. Enfin, et du coup il y a une bonne mentalité, mais je sais pas si dans 10 ans il y aura toujours cette mentalité. Enfin, après dans le trail ça va, ça perdure. Enfin, c'est pas trop mal. Enfin, je suis toujours les résultats, j'ai toujours plein de potes qui y font. Du coup, je suis pas mal dedans, quoi. Mais à la fin, t'as comme de partout, qui ont le boulard, qui ont le truc. Et...
Oui.
Et là, il y en a pas mal dans l'ultra distance.
Rappelle-toi, toi qui écoutes tous les épisodes. Rappelle-toi l'épisode avec le speaker de l'UTMB, quand il parlait des 10% de cons et des mecs qui viennent récupérer leur t-shirt finisher en ayant abandonné. Ceux-là, faudrait les encadrer, hein, c'est des phénomènes.
Oui, c'est clair.
Et malheureusement, le virage est déjà amorcé parce qu'on voit des épreuves très grand public qui attirent un public de routiers qui aiment les parcours ultra roulants, très peu techniques, où ils peuvent mettre de la bracasse. Ça attire des triathlètes même, pareil, qui veulent rouler vite, qui n'aiment pas quand il y a de la boue et de la technique parce qu'ils vont salir leurs sockets, les pauvres. Mais ça commence à arriver déjà un petit peu. On voit des pratiques pas forcément très orthodoxes. On voit des ravitaux sauvages avec la voiture du club pour des trucs en autonomie. Donc on voit déjà des comportements issus des vieilles pratiques compétitives qui viennent un petit peu s'immiscer dans notre truc. Et ça fait un petit peu amer à voir, mais ça reste sur des épreuves grand public et sur les trucs vraiment très durs comme tu as fait, on n'est pas prêt de les voir quand même. Ou en tout cas, si on les voit, on les verra pas devant parce que c'est vraiment un autre sport.
Oui, je pense pas. Après, il peut toujours.
D'ailleurs, j'ai une autre théorie.
Toujours en avoir, hein, même sur la hop. Enfin, quand tu traverses des villes, il peut toujours avoir des mecs qui ont de l'assistance. Mais après, si tu prends le départ et que tu te dis, il y en a qui vont faire ça, il y en a qui vont faire ci. Enfin, tu fais rien. Enfin, finalement, ces mecs-là, ils n'ont pas d'honneur. Enfin. Même si tu gagnes, tu fais 2-3, tu fais ça, pour moi, t'as pas d'honneur. Mais chacun sa façon de penser.
J'ai une autre théorie sur ces trucs-là. Sur une course. Une course à un cri-cri, une course à vélo, un trail. comme tu faisais, globalement, ça se passe avec les jambes. T'as pas les jambes, t'es pas devant. Mmh. Ou t'as pas les jambes, tu finis pas. Ou tu fais pas le meilleur de dont tu es capable, quel que soit le classement au final. Mais en ultra, les jambes, c'est 30%.
Ouais,
c'est 30% du total. Le reste, c'est de la stratégie, du mental, de l'alimentation. Et les jambes, bah, finalement, c'est pas ce qui compte le plus.
Ouais.
Voilà.
Ah, je croyais que t'attendais une réponse.
T'es d'accord avec ça ou
oui,
pas
oui,
t'as
non,
quelque
mais
chose
d'accord.
À
non,
ajouter
non,
au sujet des renards ou
Non, ça, j'ai rien à... J'étais sur le sujet
parce
des
que
renards.
Je sais que ça arrive rarement, mais je peux aussi dire une énorme connerie et que tu me contredises.
Non, non,
tu
non,
as le droit.
Non,
tu as le droit.
Je suis d'accord.
Tu as le droit.
Non, mais il y a tellement de facteurs. Ça peut pas... Il n'y a pas que les jambes qui rentrent en jeu, quoi. Dans l'ultra. Il y a déjà la mécanique. Il y a... Oui, sinon, il y a plein de trucs qui rentrent en jeu. Je suis d'accord.
Et le mental pour toi ?
Bah, le mental, ouais, il y a beaucoup. Si, si, il y a beaucoup de mental. Enfin, forcément, comme c'est super long, tu passes par tous les états. Et du coup, si mentalement, t'es pas un petit peu fort, enfin, tu mets le clignotant tout de suite. Donc,
Alors, ça veut dire quoi être un petit peu fort ? Ça veut dire quoi être un petit peu fort ?
Bah, si t'as pas de mental, quoi. Enfin, si t'es pas. Si t'arrives pas à passer outre
bah, ouais,
les douleurs,
si t'as pas de mental,
coups,
ça. Imagine, scénario catastrophe, il t'arrive un énorme coup de loose. Tu vomis, tu casses ton dérailleur, tu crèves et t'as plus de téléphone pour appeler ta copine.
Putain,
qu'est-ce que tu fais ?
Ça, je sais pas. Bah là, je crois que c'est vraiment la loose. Hein. Si t'as tout ça, là, je sais pas. Bah si t'as une ville pas loin, tu peux te débrouiller, mais si t'es dans la pampa, ça commence à être compliqué. Mais de toute façon, va falloir que tu rejoignes une ville pour rentrer, donc le moyen de rejoindre une ville pour réparer ton vélo. Donc voilà, peut-être toujours une solution.
Donc toujours positive, et il y a toujours au moins deux solutions à un problème.
Il y a toujours deux solutions. Il y a une moins bonne, et une que tu vas regretter, et une que... Une, il faut se donner les moyens d'essayer de repartir, quoi. Mais c'est peut-être pas toujours facile.
Ouais. Mon petit Johan... Si tu me disais de quoi va être fait ton calendrier sportif à partir de fin août quand le petit garçon va arriver, est-ce que tu vas te mettre en période off pendant quelques semaines, quelques mois, ou tu vas essayer de concilier ça au mieux, ou au contraire, comme on a dit tout à l'heure, c'est le programme que tu as envisagé, mais il y a de grandes chances que ça ne se passe pas comme il faut, que ça ne se goupille pas bien.
Ouais,
qu'est-ce que tu as prévu alors ?
Bah, moi, en fin d'année, de toute façon, en fin d'année, qu'il y ait bébé ou pas, enfin, je programme rien. Je peux pas avoir de course, vu qu'en fait, en septembre, octobre, novembre, avec ma boîte, c'est les pires périodes, en fait, où je pars énormément de déplacements, il y a des salons de partout.
Ouais.
Du coup, en fait, de prendre l'ultra distance, c'est super, mais il faut prendre des jours et ça prend du temps. Et nous, des fois, on bosse souvent le week-end. Du coup, là, moi, c'est vraiment des périodes où c'est un peu compliqué, où le vélo, j'ai un peu plus de mal à en faire. Du coup, de faire des courses, bah, la Tout Volcano Sprint, j'aimerais tellement la faire parce qu'il y a un niveau de fou et ça m'attire. Moi, dès qu'il y a de l'intensité, c'est ça qui me plaît, quoi. Mais cette course, elle est compliquée parce que la période où elle est, c'est un peu chaud, quoi. Comme l'Atlas, quoique l'Atlas, non, c'est en février, mais c'est que le report, elle est en octobre.
Oui,
mais...
là, il y en a une en octobre,
ouais,
et il y en a une
vrai.
En février, effectivement. Le février, c'est plus relax. Bon, ça impose aussi, par contre, ça impose de se préparer en hiver. Et toi, en Isère, c'est pas Tahiti quand même.
Non,
hein.
C'est pas Tahiti. Mais après, il y a des hivers plus cléments. Je sais que cette année, il a fait froid, mais il a fait super sec. Du coup, j'ai jamais autant roulé l'hiver que cet hiver-là, en fait. Enfin, je vais au boulot tout le temps en vélo.
Et puis j'ai bien l'impression que tu crains. Toi, j'ai l'impression que tu crains pas le froid, toi.
Bah, je vais pas dire que je crains pas le froid, mais ça me dérange pas, on va dire. Enfin, ici, on est quand même habitué au froid. Enfin, il fait super froid, il fait super chaud, donc on a vraiment les deux trucs. Après, comme je disais, enfin, au boulot, j'y vais tout le temps en vélo. C'est très rare que je prenne la voiture. Je crois que là, toute la semaine, j'y étais en voiture, mais c'était pour bricoler aussi, du coup. Et comme j'avais fait off, mais je crois que j'ai jamais pris la voiture autant de temps. Mais sinon, ouais, je fais tout le temps en vélo taf. J'ai que 5 bornes pour y aller, mais le retour, je fais toujours plus, quoi. Enfin, je fais toujours un petit crochet, un rallonge taf, comme je dis.
Ouais.
Donc ouais, cet hiver, j'ai pas mal roulé. Grâce à l'hiver un peu qui était sec, quoi. Il n'a pas plu, il n'a pas
Un
beaucoup
peu
neigé.
clément, ouais.
Ouais, c'était bien clément, quoi. Du coup, j'en ai profité pas mal. Du coup,
Moi, j'ai
l'Atlas,
un...
c'est une de mes courses que j'ai vraiment envie de faire. Pareil, vu qu'il y a un niveau et la course me plaît, enfin, ça a l'air énorme. Du coup, elle est dans mes petits papiers.
La Tout Volcano, je te laisserai en parler. Éventuellement, je te mettrai en contact avec Stéphane Ouaja, que t'as
Ouais.
entendu moult fois et
Oui, je crois qu'il avait dit qu'il aimait pas.
que tu connais, que tu apprécies. Ouais, il l'aime pas du tout. Pour lui, c'est une grosse vacherie cette course.
Ouais. Bah moi ce qui me plaît, enfin je sais pas, bah, c'est
Donc c'est
l'Italie,
vrai
c'est
que...
d'un point à un autre. Moi ce qui me plaît c'est qu'il y a une densité, enfin c'est le plateau qui m'attire en fait aussi. Après j'ai pas regardé le détail de la course, c'est vrai, mais quand il y a du niveau, c'était comme en trail, c'est là que j'aimais bien quoi. Enfin j'allais sur les courses à saucisson parce que c'était autour de chez moi, mais ce que j'aimais c'était où il y avait de la concurrence quoi. Enfin c'est ça que j'aime bien.
Mais j'ai l'impression, tu vois, sur les épreuves comme ça, que les premières éditions, une, deux, il y a un gros plateau parce qu'il y a des sponsors et que l'Orga fait venir des athlètes pour faire connaître la course. Mais après, ça perd un petit peu en... Ces top athlètes ne reviennent pas forcément, en
Oui,
fait.
bah
Ils vont sur autre
c'est
chose.
sûr que si la course n'est
Ils
pas
vont sur
super
une autre
belle,
épreuve nouvelle,
ouais.
parce qu'en plus, ça... Hein?
Oui, non, mais je disais, c'est sûr
Donc
que
tu
si
vois,
ça plaît pas.
quand on voit...
On se coupe, pardon.
Et quand on voit bah, une année avec Steven, une année avec Omar, avec Ulrich, avec Sofiane, tout ça, je suis pas sûr que la prochaine édition en octobre, il y ait un plateau aussi démentiel.
Ouais.
Je suis pas sûr du tout.
À voir.
Pareil pour Badlands en septembre. Je suis pas du tout certain qu'il y aura toujours un gros niveau, mais il n'y aura pas les têtes d'affiche que l'on a pu voir cette année.
Ouais.
En tout cas l'année dernière, je veux dire.
Bon, après, il y aura toujours des costauds, mais
Donc,
c'est sûr qu'il n'y aura peut-être pas
mais
l'Atlan.
par contre sur la, bah non, il l'a fait il y a 2 ans, il l'a gagné il y a
Ouais.
2 ans, donc c'est bon, c'est pour lui, il passe à autre chose. Mais par contre l'Atlas, j'ai l'impression que c'est une valeur sûre et même un Sofiane, je crois qu'il pourrait y revenir. Je crois qu'il pourrait revenir pour essayer de battre son record, je crois. De battre son propre temps.
Ouais.
Ça, je serais pas étonné du tout, du tout. Et c'est une valeur sûre, un James Hayden qui a pas eu de bol, des mecs comme ça, Christian Mayer peut-être, Stéphane
Il
évidemment.
y a Marin qui voulait y aller
Ce genre
aussi,
de
hein,
gars,
mais...
je les verrais bien revenir.
Ouais, c'est ça.
Ah bah Marin, et de toute façon, il devait y aller en février.
Ouais.
Marin, on s'est écrit 2 semaines avant la course et il m'a dit, ouais, je pars dans une semaine, 5 semaines au Maroc sur la course. J'écris à Nelson, je lui dis donc, il n'y aurait pas un Marin de Saint-Exupéry dans tes engagés? Il me fait, bah ouais. Donc, il devait faire la course et après voyager dans le
Ouais.
Maroc. Mais sauf que, bah, comme tu le sais, le Maroc a fermé ses frontières. Donc Marin est resté dans le Morvan. Voilà, beaucoup moins classe.
Autre chose.
Même si c'est autre chose, ouais, c'est une autre ambiance, hein, c'est clair. Bon, en tout cas, mon petit Johan, je vais te laisser parce que dans un quart d'heure, je vais chercher mon fils à la garderie. Et je vais aller prendre une douche parce que je reviens, comme je t'ai dit, je reviens juste de
Ouais.
rouler, donc il faudrait quand même que j'aille me laver un tout petit peu. Je te laisse pour ta minute de solitude. T'as l'habitude, tu la connais, et je pense que celle-là, elle va être mémorable parce que t'as plein de choses à dire. T'aimes pas, hein?
Mais personne n'aime, je crois, cette minute de solitude, non?
Et t'as. Mais si, il y a des mecs qui aiment la minute de
Oui, mais c'est les
solitude,
gros
tu vois,
bavards.
Sofiane, il chante. Le brognard, tu lui mets une minute de solitude, il te fait 3 heures.
Oui, bah c'est ça,
Il y a
il y
des
en a,
mecs
ils aiment
qui aiment, il
bien
y en a
parler.
qui n'aiment pas. Bah, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Et bah, toi, tu fais comme tu veux. Et ta copine, c'est une bavarde ou pas?
Oh, lui comme moi, enfin après je suis bavard quand je connais, quand je machin, je suis moins timide quoi, mais là c'est un peu l'inconnu, enfin c'est pas simple quoi de.
Oh, c'est l'inconnu, attends, on est entre nous.
Oui, je sais bien,
Un,
mais
on
bon.
s'est déjà parlé une fois au
C'est vrai.
téléphone. On a parlé 2 fois par Messenger. Alors merde, on se connaît.
Ouais, c'est vrai ça.
Et puis bon, quand même, c'est du vélo, c'est
Oui,
pas,
non, mais c'est
tu vois,
sûr, c'est sûr.
c'est quand même que du vélo, faut se détendre un peu.
C'est clair.
T'es intimidé en fait.
C'est ça, tu
Bon, c'est
m'intimides,
pas grave.
Richard.
Je te laisse. En tout cas, bravo.
Merci, c'est sympa.
Tu verras, dans Planète Gravel, il y a un petit passage sur toi dans le sujet compétition. parce que vous avez été trois Français à vraiment bien fonctionner sur cette épreuve. Et c'est un plaisir de vous avoir croisé. Donc vraiment bravo pour la suite de ta saison et bravo pour le petit garçon qui va arriver.
Merci bien.
Et je veux évidemment tout le bonheur possible, que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il sorte en un seul morceau et qu'il soit en très bonne santé et que tous... Oui, bah, des fois, ça arrive qu'il ne soit pas en un seul morceau,
hein,
désolé.
Hein. Un peu bizarre.
C'est rare, mais ça arrive malheureusement, ou qu'il y ait un petit souci, et ouais. Voilà. Donc ça, vraiment, je vous souhaite le meilleur, et je te laisse pour ta minute de solitude, Johan. À très bientôt.
Merci beaucoup.
Et t'oublies pas, hein, quand t'as fini, tu te barres, mais tu laisses ton ordinateur tourner. Je t'enverrai un message pour te dire, c'est bon, tu peux fermer le bazar, d'accord ?
Oui, si, on fait comme ça. Merci beaucoup. Salut, Richard. Mais du coup, tu restes là ? Ah. Alors, ma mise de solitude, ouais, ça va être compliqué, mais bon, faut y passer. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire ? J'ai à dire de profiter de la vie, profiter de tout. Enfin, moi, j'ai un peu une phrase ben, qui est un peu bateau, mais c'est la mienne. Enfin, c'est vivre ses rêves. Enfin, je l'ai même tatoué sur ma cuisse en thaïlandais, parce que j'ai déjà été plusieurs fois en Thaïlande. Et en fait, cette phrase veut dire beaucoup, c'est que vivre ses rêves, finalement, la vie est assez courte, elle est courte et elle est longue à la fois, mais voilà, faut kiffer, quand on a une envie, quand on a un truc, faut foncer, quoi. Quand j'ai rencontré ma copine, bien après, on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas une année sabbatique pour aller faire le tour du monde ? Bah, on l'a fait, quoi, alors que j'avais une maison, j'étais propriétaire, j'avais une voiture, et des trucs, mais bon, dans la vie, quand on a des rêves, faut pas hésiter, c'est pas du matériel qui nous tient, du coup, on a fait en sorte de pouvoir partir sereinement, et du coup, depuis ce voyage, quand j'ai vraiment envie de faire quelque chose et que c'est réalisable, je me donne les moyens de le faire, et je vous souhaite de le faire, et de faire pareil. Donc, voilà. Et après... Kiffez le vélo, faites-en autant que vous voulez, faites des vélo-taf, parce que finalement, ça fait partie de l'entraînement, ça évite de moins prendre la voiture. Je suis pas un pur écolo, mais j'essaye de faire maximum attention. Donc, voilà, c'est bien tendance, et il faut profiter. Enfin, ceux qui peuvent, au lieu de se mettre dans une voiture pendant 30 minutes, pour finalement des fois aller moins vite qu'en voiture... prenez votre vélo, allez au boulot en vélo, faites le maximum en vélo. Et finalement, ça fait partie de l'entraînement. Moi, si je compte tous mes vélos taf, ça fait des kilomètres à la fin, donc ça compte. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser plus. Merci en tout cas Richard pour ce podcast, merci pour l'article dans Planète Gravel, même si je ne l'ai pas encore vu. Donc voilà, merci beaucoup, et voilà, à la prochaine, et faites du vélo et faites attention à vous. On pensait que le Covid, ça allait arranger les gens, mais j'ai vraiment l'impression que les gens s'en foutent. J'ai l'impression de m'embrouiller. Dès que je prends mon vélo de route, j'ai l'impression de m'embrouiller à chaque sortie. Donc faites quand même attention à vous, parce que ça peut être dangereux aussi. Donc voilà. Allez, salut. Merci bien.